Étienne de Rouen. Ah oui. Mais je ne recommencerai pas pour autant. Et vraiment, j'ai été merveilleusement accueilli par votre pasteur, par son épouse et par vous tous ce matin. Et c'est vraiment toujours une grande joie de savoir que le corps de Christ est tellement plus riche qu'on ne le pense, riche par votre présence, par les dons et les talents que le Seigneur a semés dans chacune de vos vies. Et c'est vrai que, alors j'ai 50 ans, j'ai fêté mon jubilé cette année. Et donc je suis né dans une famille de souche catholique, ce qui n'est pas forcément très original en France. Et puis à l'âge de 11 ans, pour faire court, j'ai rencontré un jeune de ma promo dans un collège rouennais qui m'a parlé de l'Évangile. Et puis ça a marqué mon cœur, ça a construit quelque chose qui s'est forgé avec le temps. Et puis 6 ou 7 ans plus tard, j'ai commencé à ouvrir ce magnifique livre que vous avez non seulement sur votre chevet, mais certainement dans votre cœur, qu'est la Bible. Et puis peu à peu, j'ai fait ce cheminement. Je me suis intégré dans une église de Pentecôte à Rouen que mon frère connaît. Et puis c'est là où donc j'ai été baptisé en 1987. C'est là où j'ai rencontré ma future épouse, son mari en 91. Et puis les aléas et les vicissitudes de la vie ont fait que cette église a connu des moments un peu compliqués. Et depuis déjà quelques années, je m'étais pas mal investi auprès des SDF, des gens de la rue. Et donc j'ai rejoint, si curieusement que ça puisse vous paraître, l'Armée du Salut, qui est aussi un poste d'évangélisation. C'est aussi une église, l'église de la rue. Et nous y avons passé de belles années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur nous appelle à prendre la responsabilité donc d'une assemblée à Rouen, donc depuis un peu plus de 12 ans. Je suis juriste de formation, je sais, personne n'est parfait. Et quand vous saurez que mon épouse travaille aux impôts, vous direz non, ils ne reviendront plus. Nous en payons suffisamment pour que, en plus, nous payions encore des impôts le dimanche matin. Mais rassurez-vous, je n'irai pas plus loin dans l'abomination. Je laisse le soin à chacun d'entre vous de rendre à César ce qui est à César, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons adopté il y a une bonne dizaine d'années de cela une petite fille, une Ukrainienne. J'ai eu la joie tout à l'heure d'avoir un temps de partage avec la plus roumaine d'entre vous. Et combien nous apprécions avec mon épouse les pays de l'Est. Et nous revenons justement de Roumanie cet été. Et nous avons aussi été heureux et encouragés de visiter des familles chrétiennes, d'aller dans une assemblée dans la ville de Cluj pour constater que Jésus-Christ est vivant, mais ça vous le saviez, non seulement dans cette belle région de Bretagne, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'étais très partagé ce matin quant à la façon avec laquelle je voulais vous présenter quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, il y a les choses que l'on prépare et puis il y a les choses que le Seigneur vous donne. Et j'avais vraiment deux sujets à cœur. Alors non pas qu'il faille que je vous les délivre l'un après l'autre, ce qui obligerait votre pasteur à me réinviter une autre fois. Je ne sais pas si l'amour fraternel qui me lie à lui ira jusqu'à là, mais tout du moins, j'aimerais quand même, il faut faire un choix entre les deux. Et je vais essayer malgré tout de répondre au mieux à ce que le Saint-Esprit me demande pour ce matin, pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu? Vous le savez, j'espère, et qu'il vous aime tel que vous êtes. Alors, j'ai un certain nombre de petites pensées pour vous ce matin, 10 exactement, que j'aimerais partager très brièvement après que nous fassions une brève lecture. Et je vais demander peut-être à l'un d'entre vous de devenir un jeune. Alors, peut-être que, tiens, je sais que tu es là-bas, mais est-ce que tu peux venir sur le devant? Tu vas me faire la lecture à ma place, d'abord parce que j'ai quelques difficultés à lire. Non pas que je ne sache pas lire, mais mes yeux sont un peu fragiles. Et puis j'aurai besoin en plus de ton service. Tu vas voir, et tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Il va faire lecture dans la troisième épître de Jean, un court verset que vous connaissez fort bien. Verset 2 simplement. Bon, jusque-là. Donc je vous laisse le soin de chercher. Troisième épître de Jean, verset 2. C'est là. Verset 2. Et là.
J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande... Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
Merci. Mais tu restes là, parce que je vais encore avoir besoin de toi. Tu fais partie de ceux et de celles qui ne me regretteront pas quand je vais partir rapidement, puisque je vais encore le solliciter pour autre chose. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais donner un document à chacun d'entre vous, comme ça vous garderez souvenir de moi, et qui correspond en fait finalement à ces 10 principes que je souhaitais justement développer avec vous ce matin. Il y en a un pour deux, pour couple. Je vais demander à votre pasteur de faire la distribution. Le verset qu'on vient de lire ce matin est un verset assez connu et d'ailleurs c'est un verset que l'on cite généralement en début de chaque année. Je souhaite que tu prospères à tous égards, corps, âme et esprit. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi la salutation qu'on devrait se faire mutuellement et pas forcément le 1er janvier de chaque année. Nous espérons prospérer, non seulement dans notre corps, nous espérons en bonne santé, également au niveau de notre âme, c'est le siège de nos émotions, et aussi l'esprit, cette capacité que nous avons à communier aussi avec le Saint-Esprit. On a tellement envie et tellement besoin pour notre vie spirituelle, dans notre marche de tous les jours, à être en bonne santé. En bonne santé spirituelle. Et parmi tous les principes que j'aimerais que nous puissions voir ce matin, le premier c'est celui-ci, je l'ai intitulé « Construisez sur vos points forts ». Vous savez mes amis, nous avons des points faibles. Et pour les connaître, c'est facile, il suffit d'interroger notre conjoint. Parce que nous, on n'a pas forcément la liste complète, notre conjoint, oui. Et si vous voulez donc connaître les points faibles de votre pasteur, adressez-vous à son épouse, elle est là. Elle vous le dira, elle prendra tout le temps nécessaire, c'est-à-dire des heures, pour énumérer ce qui ne va pas encore dans le cœur de votre pasteur. Et nos faiblesses, on les connaît, le diable les connaît, et il est toujours le premier à nous pointer du doigt là où ça fait mal, et à nous faire comprendre qu'on n'est pas digne, à nous faire comprendre qu'on n'y arrivera pas. Et on passe un temps fou à essayer de corriger nos faiblesses. Comme si finalement on avait oublié au passage que nos faiblesses, on a à les présenter au Seigneur. C'est lui qui doit nous faire grâce, qui nous fait grâce, pour faire en sorte à ce que de nos fragilités, de nos faiblesses, il en construise des forces. Alors, ce qui nous importe, c'est de construire avec ce que l'on a, et non pas ce que l'on n'a pas encore. De construire avec effectivement ses points forts, ses qualités, ses dons, ses capacités que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous, tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Alors ne jalousons pas les capacités et les forces de l'autre. Acceptons nos capacités, saisissons-les, développons-les pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse faire deux tests ce matin pour vous en convaincre un peu plus. J'ai devant vous, et je vais avoir besoin de ton aide, quelle chance il a. Voilà un document, je ne vous demande pas ce qu'il y a dessus, parce que c'est à lui que je vais lui demander. Mais au moins vous saurez exactement ce que je vais lui proposer de faire. Mon cher garçon, je ne connais même pas ton prénom, tu t'appelles comment ? Valentin. C'est un très joli prénom. Qu'est-ce que tu vois ?
Un rond noir.
Il a vu un rond noir, ou un point noir. Eh bien, mon cher Valentin, il y a des choses à changer dans ta vie. Parce que moi, je ne veux pas voir un point noir.
C'est une feuille blanche.
Ouais. On voit une feuille blanche avec un tout petit point noir au milieu. Mais vous savez, mes amis, quelque part, c'est aussi une façon comme une autre pour nous rappeler que dans nos vies au quotidien, on est souvent axé et concentré sur ce qui ne va pas dans nos vies. Sur nos faiblesses et nos fragilités. Et peut-être que ce matin, tu es venu avec justement la liste de tes faiblesses, de tes découragements, de tes doutes. Et tu te dis, franchement, avec tout ce qui m'arrive, avec toutes mes faiblesses, avec tout ce qui ne va pas dans ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir, dès lundi matin, reprendre le chemin du travail, je reprends le chemin de mes galères, reprendre le chemin de mes tempêtes. Est-ce que ce matin, une fois dans ta vie, tu as envie de regarder la feuille blanche, avec un tout petit point noir au milieu? Et pas l'inverse. Valentin, j'ai un deuxième test pour toi. Il est à moi, s'il te plaît. C'est un billet de 5 euros, ce n'est pas une contrefaçon, c'est un vrai billet. Si je le plie en deux, mon cher Valentin, crois-tu réellement que ce billet a perdu de sa valeur ? Ben non. Si je le plie encore un peu plus, est-ce que tu crois qu'il a perdu pour autant un peu de sa valeur ?
Non.
Il est excellent, ce jeune homme. Hein ? Et si je le froisse un peu, crois-tu réellement que ce billet a perdu de sa valeur ? Toujours pas. Eh bien, il en sera de même pour toi, mon cher Valentin. Tu es aimé de Dieu. Si dans ta vie, dans ta jeune vie, il t'arrivera peut-être de rencontrer des gens qui vont te froisser, qui vont te plier dans tous les sens, qui vont te faire comprendre que tu n'as pas de valeur, ou tu en as de moins en moins, sache que pour Dieu, tu auras toujours la même valeur. Toujours la même valeur. Alors ne regarde pas ce que les autres peuvent penser de toi, mais fixe tes regards vers celui qui t'a dit un jour et qui te le redira encore aujourd'hui, que tu as beaucoup de valeur à ses yeux et qu'il a préparé pour toi un plan de paix et non de malheur. Est-ce que tu en es sûr ?
Mm-hmm.
Tiens, Valentin. Alors, mes amis, je crois que c'est le premier point important qu'il faut que vous compreniez bien, c'est celui-ci. Et puis, il y a un deuxième point peut-être. Le caractère est plus important que la réputation. Ce que l'homme fait est le reflet direct de ce qu'il est, n'est-ce pas ? À ce titre, il faut faire une comparaison avec la réputation et le caractère. Écoutez-moi. La réputation, c'est ce que l'on est censé être. Le caractère, c'est ce que l'on est. La réputation, c'est ce que l'on a quand on arrive dans un nouvel endroit. Le caractère, c'est ce que l'on a quand on s'en va. La réputation se fabrique rapidement. Le caractère se construit tout au long d'une vie. La réputation vous rend riche ou pauvre. Le caractère vous rend heureux ou malheureux. La réputation, c'est ce que les hommes écrivent à votre sujet sur votre pierre tombale. Le caractère, c'est ce que les anges disent de vous autour du trône de Dieu. Mes amis, trop souvent, on a les yeux fixés sur notre réputation. Et en particulier, quand on commence à ouvrir notre bouche pour exprimer notre foi en Jésus-Christ. Et cette question-là qui nous taraude, c'est de se dire, et si je parle de ma foi et qu'elle est mal perçue, comment je vais être apprécié alors que j'ai une bonne réputation dans mon entreprise, j'ai une bonne réputation dans mon quartier, j'ai une bonne réputation à côté de mes voisins? Que vont-ils dire de moi quand ils vont savoir que je suis différent d'eux, que je suis chrétien? Est-ce qu'on va être amené à faire et à dire comme toutes celles et tous ceux qui nous environnent et pour qui la réputation est la première des préoccupations? Mes amis, vous le savez, de plus en plus dans le monde, nous vivons des temps de persécution. Des hommes et des femmes ont fait le choix de se forger un caractère en Christ, quitte à ce que leur réputation soit piétinée. Mais mes amis, ceux qui vivent au fin fond de l'Irak ou de la Syrie, peut-être que nous, demain, nous vivrons la même chose et nous devrons faire un choix entre notre caractère en Christ et notre réputation. Alors oui, peut-être, nous serons discriminés. Oui, peut-être, nous serons diffamés. Oui, peut-être, nous serons rejetés. Oui, peut-être, la réputation que nous avons construite depuis très longtemps, elle ne vaudra plus rien. Oui, mais nous aurons développé notre caractère en Christ. Nous aurons fait ce que Dieu aura voulu que nous fassions, c'est-à-dire rester fidèles jusqu'au bout, terminer notre course en vainqueur. Alors mon ami, toi qui es venu ce matin dans la maison de Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Ton caractère ou ta réputation ? Il y a un troisième principe que je souhaitais débattre avec vous ce matin. Les gens se souviendront de deux choses à votre sujet. Les problèmes que vous avez résolus et les problèmes que vous avez créés. Parce qu'on peut en produire des problèmes. On peut être une source de problèmes. On peut être une source de division. On peut être une source de critique. Est-ce que c'est ça ce que le Saint-Esprit attend de chacun d'entre nous ? Nous ne sommes pas nés, mes amis, pour être une source de problèmes. Nous sommes nés pour montrer aux autres la solution en Jésus-Christ à tous nos problèmes. Il n'y a pas de problème pour lesquels Christ n'a pas de solution. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde à problèmes, où les hommes politiques se grattent la tête tous les matins en se disant « Mais que vais-je pouvoir faire pour régler le problème du chômage, de l'insécurité, de tout ce qui ne va pas dans une société qui est décadente ?» Ils sont impuissants, incapables, parce qu'ils font reposer leurs décisions sur une sagesse purement humaine, purement charnelle, et les problèmes s'amoncellent. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on est encore prêts de dire « Seigneur, face à tous ces problèmes, en quoi est-ce que je peux être prêt à tenter, à essayer d'être, comme votre pasteur l'a rappelé tout à l'heure, c'est les lumières, autrement dit, apporter des solutions au nom de Jésus-Christ à cette génération qui se perd. » Oui, vous serez à la fin de votre vie catalogués en deux catégories. Ceux et celles qui n'ont passé leur vie qu'à engendrer des problèmes. Et celles et ceux qui ont tout fait dans la prière, l'intercession et par l'action, pour régler autant que faire se peut des problèmes relationnels, que ce soit dans l'assemblée, dans la vie familiale, mais aussi essayer d'être utile, d'être sel et lumière dans notre société. Alors vous vivez dans cette belle région de Bretagne qui a aussi des problèmes. En quoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre famille, dans votre entreprise, vous pouvez être source de solution en Jésus-Christ. En quoi vous pouvez apporter quelque chose? J'ai lu dernièrement un article qui m'a vraiment saisi et qui rappelle la situation d'un pays qui paraît bien lointain et d'une ville que vous connaissez pourtant fort tous, très bien, c'est New York, et dans les quartiers en particulier de Brooklyn, du Bronx et d'Harlem. Il nous est dit que chaque année, dans tous ces quartiers, plusieurs milliers de voitures sont volées. Le taux de chômage est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. 83% des enfants scolarisés quittent l'école sans diplôme. Entre 60 et 70% de la population reçoit une aide sociale. Le juge aux affaires familiales de New York a traité 24 000 cas d'abus d'enfants en 2004, soit une augmentation de 700% en 10 ans. Dans les villes américaines, plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Il y a 100 000 enfants sans abri aux États-Unis. En moyenne, 135 000 écoliers arrivent à l'école avec un revolver. 4 millions d'adolescents sont alcooliques aux États-Unis. 2,5 millions d'adolescents contractent une maladie sexuellement transmissible chaque année. Et 1 million de jeunes gens consomment de la drogue régulièrement. Ce sont leurs problèmes, pourrait-on nous dire. Mais nous avons aussi les nôtres, là, dans nos quartiers. Il y a peut-être aussi des gens en grande difficulté. Des gens qui crient au secours depuis tant d'années et qu'on n'entend plus. Que vraiment le Seigneur puisse vous donner des oreilles pour entendre la souffrance des autres. Des yeux pour voir la souffrance des autres. Vous savez, l'abbé Pierre avait l'habitude de dire « Il faut choisir entre le miroir et la vitre. Le miroir n'est que le reflet de vous-même, c'est de l'égoïsme. La vitre vous donne l'occasion de pouvoir regarder ceux de l'extérieur. » Et il précisait même que cette vitre soit même cassée, de telle sorte à ce que vous puissiez entendre les cris de ceux qui sont dehors. Vous savez, nous vivons et nous construisons des maisons dites BBC. Vous savez, des maisons qu'il faut isoler absolument, avec du double ou du triple vitrage. On ne veut plus entendre les bruits du dehors. On ne veut plus entendre les problèmes des autres. On veut être chez nous et en tranquillité. Et quelque part, ça doit aussi nous interpeller. Est-ce que nous aussi, qu'en tant qu'enfants de Dieu, on n'a plus envie, parce qu'on est fatigué, d'entendre les cris de détresse des uns et des autres? Alors, on se construit une vie spirituelle BBC. Alors, méfions-nous de cela. Un autre principe peut-être pour moi, pour vous, ce qui se produit en vous est plus important que ce qui vous arrive. Il y a quelques années de cela, à Dallas, il y a une femme chrétienne qui a perdu un enfant le jour de Noël. Cette histoire est véridique. Et de cette tragédie, cette femme a décidé d'en faire une bénédiction pour les autres. Et donc, toutes les semaines, elle prenait le journal local de Dallas et elle regardait sur la liste nécrologique les enfants qui étaient morts pendant cette période, et elle prenait systématiquement contact avec les familles endeuillées suite au décès de ses enfants. Et elle priait avec ses femmes, ses mères, ses pères qui avaient perdu un enfant. Elle qui était si bien placée, elle-même qui avait perdu un enfant, ne voulait pas que la perte de cet enfant signe l'arrêt de mort de sa vie spirituelle. Elle voulait absolument, malgré tout, être une source de bénédiction pour les autres. Alors sa guérison, mes amis, a commencé lorsqu'elle a réalisé que ce qui se passe en elle est plus important que ce qui lui arrive. Comprenez bien, vous aurez des tempêtes, vous en avez déjà. Vous aurez des tribulations, vous aurez peut-être des maladies, des temps compliqués, le Seigneur fait grâce, c'est vrai. Mais notre bonheur et notre foi ne dépendent pas des circonstances, mais de la capacité que nous avons à les transcender et de se dire en quoi ce qui m'arrive peut malgré tout m'être profitable pour moi et pour les autres. En quoi puis-je donner un sens à ce qui m'arrive? Est-ce qu'on peut donner un sens aux ténèbres? Est-ce qu'on peut donner un sens à la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce qu'on peut donner un sens à la maladie, au deuil, au chômage? On peut donner un sens dans la mesure où, au travers de ça, en quoi est-ce qu'on peut quand même encore grandir et faire grandir les autres? Alors c'est un challenge pour chacun d'entre nous par rapport à cela. Et puis, il y a un cinquième principe que je souhaitais brièvement développer avec vous ce matin. Face au pardon, l'homme n'est pas plus grand que Dieu. Vous savez, j'en parlais hier avec quelques frères et quelques sœurs. Il y a dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 27, ce verset qui nous dit « Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant ». La pensée de Dieu nous surprendra toujours. Parce qu'on aurait envie, quelque part, de connaître et de bien comprendre sa volonté avec beaucoup plus de facilité. Combien de fois, alors que vous étiez dans la prière et la méditation de la parole, vous étiez dans l'interrogation et le doute par rapport à des chemins sur lesquels il fallait aller? Fallait-il aller à gauche? Fallait-il aller à droite? Fallait-il aller dans telle direction? Et vous avez tâtonné. Et puis dans vos tâtonnements sincères, eh bien parfois des portes se sont ouvertes, vous les avez empruntées, et les chemins sur lesquels vous avez été n'étaient pas des chemins de lumière. Vous vous êtes trompé. Croyez-vous que le Seigneur vous a condamné pour autant? Vous avez peut-être demandé pardon, vous vous êtes repenti de cette précipitation qui était la vôtre, mais vous avez tâtonné. Mais je crois que Dieu aime cela. Vous savez, il y a cette histoire de ce miracle extraordinaire où Jésus va guérir un aveugle. Hein, il va prendre un peu de boue avec sa salive et il va lui dire « Va te laver dans le bassin de Siloé ». Et quelque part, on peut se mettre à la place de cet homme qui n'a pas été au bénéfice, si l'on peut dire, d'une guérison instantanée. Jésus l'a testé et l'a éprouvé. Il fallait qu'il aille là-bas. Et vous imaginez, pour cet homme, c'est à nouveau prendre le risque de traverser Jérusalem, cette ville grouillante de monde. Il fallait prendre le risque peut-être de se taper un peu contre les murs, même s'il connaissait bien sûr quelques rues, quelques ruelles. Il fallait qu'il prenne le risque aussi de supporter le ridicule du regard des autres, de voir cet aveugle avec de la boue et de la salive sur ses yeux. Il a fallu qu'il supporte tous ces ricanements, il a fallu qu'il tâtonne, il a fallu qu'il demande aussi son chemin. Mais où il est ce bassin pour que je puisse enfin y aller? Peut-être qu'il a pu douter en disant « Mais que suis-je bête ?» à vouloir ainsi accepter de cet homme que je n'ai jamais vu et pour cause, avec cette folle espérance, moi qui n'ai jamais vu, d'aller dans ce bassin comme si cette eau allait pouvoir. Et il a été jusqu'au bout. Et Dieu a honoré sa foi, comme ces lépreux qui ont été guéris sur le chemin, nous dit-on, comme ce général Naaman qui s'est baigné cette fois dans le Jourdain. Il a tâtonné, il s'est dit, est-ce vraiment nécessaire et raisonnable? N'ai-je pas des plus grands fleuves dans mon pays que ce misérable Jourdain? On tâtonne, mes amis. Est-ce que c'est péché que de tâtonner? Non, je ne crois pas. C'est que on est dans notre humanité, dans notre chair, et même si on est conduit par le Saint-Esprit, on est dans cette fragilité. Alors, est-ce que quand vous vous trompez, vous vous pardonnez? Vous savez, j'entends souvent ça, mais ça c'est en Normandie, c'est pas en Bretagne. je ne me pardonnerai jamais de ce que j'ai fait. Je ne me pardonnerai jamais de ce que j'ai dit à telle personne. Jamais ! Et quand vous interpellez cette sœur et ce frère en disant « Mais le Seigneur t'a pardonné. Qui es-tu pour dire une chose pareille ? Es-tu plus grand que Dieu ? Pour te refuser à toi-même de te pardonner ?» Il faut apprendre aussi ce chemin d'humilité qui est de se dire « Je me suis trompé. C'est vrai. Mais j'ai demandé amèrement pardon au Seigneur. J'ai tâtonné pendant des années à faire des choses que je m'étais imaginé être bonnes. Et je me suis rendu compte que le résultat était lamentable. Et je m'en veux toute ma vie parce que j'ai passé des années sur un mauvais chemin. J'ai entraîné des gens avec moi sur un mauvais chemin. » Et on rumine ça. Et ça nous ralentit dans notre vie spirituelle. Non, mes amis. Oui, on peut tomber et il faut savoir se relever. Oui, on peut chuter, mais il faut savoir se remettre debout. Oui, il faut être encore capable de se dire, Seigneur, oui, j'ai chuté. Oui, c'est la chair. Oui, c'est le diable qui peut-être m'a poussé dans cette direction. Mais avec ta grâce, je me relèverai encore. J'irai jusqu'au bout. Je terminerai ma course en vainqueur. Je ne veux pas laisser tomber. Combien parfois, quand on regarde la télévision, et c'est arrivé dernièrement encore, lors de compétitions où un homme qui tombe en pleine course, il sait pertinemment que pour lui, la course est finie. Mais il se relève et il veut courir encore. Il s'est fait un claquage musculaire, j'ai vu ça à la télé. Et il court encore. Et dans l'estrade, il y a un homme qui descend l'aider, c'est son père, pour l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tout le monde qui applaudit à tout rompre. Il n'aura pas la médaille d'or, il n'aura pas la médaille d'argent, il n'aura pas la médaille de bronze. Mais il a été jusqu'au bout d'un rêve, celui d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Il y a un homme politique américain qu'il exprime bien. Il était chrétien. Voilà sa vie, son CV, en quelques mots. En 1831, il va au commerce. En 1832, il est battu aux législatives. En 1833, il fit à nouveau faillite. En 1835, il va perdre sa femme. En 1836, il fait une dépression nerveuse. En 1838, il fut battu à nouveau comme parlementaire. En 1843, il ne fut pas élu au Congrès. En 1846, il obtient une place au Congrès, mais la perd en 1848. En 1855, il n'est pas élu au Sénat. En 1858, il ne fut toujours pas élu au Sénat. Et en 1860, il devient président des États-Unis. C'est Abraham Lincoln. Si nous n'avions pas la dernière date, on pourrait dire de lui, pauvre type, c'est un raté, hein. Il est courageux, hein. Mais c'est foutu pour lui, hein. Mais il y a 1860. Mes amis, qu'il y ait dans ta vie 1860. Qu'il y ait dans ta vie, à un moment donné, un jour où le Seigneur va apprécier tellement ton endurance, ta capacité à te relever et à te pardonner aussi toi-même de tout ce que tu as pu faire. Il va te permettre d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à ton 1860. Vous savez, mes amis, pour ma part, avec mon épouse, je l'ai raconté, nous avons tâtonné pour avoir un enfant. Je ne pouvais pas en avoir, et dans notre souffrance qui était la nôtre, et dans les silences de Dieu, que les silences de Dieu sont douloureux. Parce que comme je l'ai partagé, est-ce que le silence de Dieu veut dire non ? Est-ce que les silences de Dieu veulent dire attends ? C'est difficile de vivre ça pendant des années. Et puis, à un moment donné, dans notre humanité, dans nos tâtonnements, plutôt que peut-être d'attendre le secours de Dieu, nous avons été au secours auprès des médecins. À une époque où la technique qui devait accompagner mon opération et qui était très hasardeuse et très aléatoire. Et nous y sommes rentrés dans cette dimension-là. J'étais opéré, je ne rentre pas dans les détails. Il y a eu toute une série de techniques qui ont été mises au point, et puis des filles qui ont suivi, et ma femme qui est tombée enceinte. Et 10 semaines après, elle fait une fausse couche. Et tout ça mélangé, et tous nos tâtonnements dans la nuit, et de se dire, Seigneur, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire. On a peut-être eu le sentiment d'avoir mal fait. Jusqu'à ce que dans nos tâtonnements, eh bien, nous soyons orientés vers l'adoption. Et contre toute attente, toutes les portes se sont magistralement ouvertes, très vite. Et nous sommes partis à Kiev. récupérer notre petite fille, que nous avons bien sûr adoptée et tellement aimée, au point aujourd'hui je lui dis entre quatre yeux, ma chère fille, si ça avait été la chair de ma chair, tu aurais été tellement moins bien que celle que le Seigneur nous a offerte. Comme je disais avec humour, cette fille aurait hérité de mon caractère et de celui de ma femme. La pauvre petite, c'est ce qu'on appelle mal commencer dans la vie. Dieu est bon, mais le chemin sur lequel vous êtes, qui est le fruit d'un tâtonnement, n'est pas forcément celui de Dieu. Est-ce que pour autant Dieu ne vous aime pas? Souvenez-vous, ses disciples partis sur le chemin d'Emmaüs. C'était pas la direction. Et Jésus les a rejoints. Leur a-t-il pointé du doigt d'un air accusateur? Mais que faites-vous à Emmaüs? C'est à Jérusalem qu'il faut être. Vous êtes dans la mauvaise direction. Pour la peine, je vous abandonnerai. Non. Jésus est resté avec eux. Il a rompu le pain. Nous dit-on, leurs yeux se sont ouverts. Et c'est toujours avec plein d'amour qui nous rejoint dans nos erreurs, qui nous rejoint dans tes tâtonnements, qu'il te rejoint dans tes impasses et qui te dit avec douceur combien il t'aime, combien il veut continuer ce chemin avec toi. Et spontanément, ses disciples sont repartis à Jérusalem. Alors, il y a un chemin de retour pour toi. Il y a un nouveau chemin aussi, si toi, peut-être, tu t'es égaré dans des impasses, le tâtonnement. Sixième principe. Lorsque l'on obtient quelque chose que l'on n'a jamais eu, on acquiert la responsabilité de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Dieu exigera toujours plus de quelqu'un qui a reçu beaucoup plus. Vous savez, parfois, on pointe du doigt avec orgueil nos amis catholiques, estimant que ces pauvres gens, eh bien, sont souvent embourbés dans l'idolâtrie des statues, etc. Et ils exercent leur foi, finalement, au vu de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu, et peut-être pas forcément grand-chose. Mais avec ce qu'ils ont reçu, ils essayent de vivre leur foi. Mais nous, nous qui nous enorgueillissons de connaître parfaitement la parole de Dieu, de la proclamer, et même de l'envoyer à la figure par des versets interposés à des personnes qui s'opposeraient à nous. N'est-il pas écrit dans la Bible, au chapitre 26 d'Ésaïe, au verset 3, que... N'est-il pas écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 23, au verset 6, que... Ah ça, pour proclamer la parole de Dieu, nous les évangéliques pentecôtisants, nous sommes extrêmement bons. Mais est-ce qu'on se rend compte que, ayant plus reçu, ayant plus de connaissances, on vous nous demandera plus aussi, que l'Éternel attend de nous un comportement, une attitude peut-être plus exemplaire que celles et ceux que nous pointons du doigt. Vous savez, quand vous pointez du doigt, il y a un doigt dans une direction, il y en a trois autres dans la vôtre. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, sachez que remerciez le Seigneur pour les acquis, pour ce que vous avez reçu de Dieu, des enseignements qui vous sont délivrés, par rapport à la nourriture qui vous est donnée. Mais attention, en étant mieux nourri, en attend de vous, effectivement, un comportement plus exemplaire que par rapport à celles qui ont moins reçu et qui vivent pleinement leur foi en Christ par rapport à ce petit peu. Vous savez, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la Bible. Ils n'ont lu que peut-être qu'un évangile, voire même quelques chapitres d'un évangile. Et toute leur foi repose sur cette écriture. Ils n'ont que ça, mais ils le vivent avec tellement plus de conviction, de foi, d'abandon dans les mains de Dieu, que nous qui avons une Bible dans chaque pièce de notre maison. Septième principe, si les gens ne connaissent pas votre passion, c'est que vous n'en avez pas. J'ai quelqu'un que je connais, que j'apprécie parce que ça fait 30 ans que je côtoie, et depuis une trentaine d'années, sa passion à lui, ce sont les jaguars, pas l'animal, la voiture. Et à chaque fois que je le vois, à chaque fois que nous mangeons ensemble, j'y ai droit. Que ce soit entre la poire et le fromage, ou même généralement plutôt dès l'apéritif, il m'interpelle en disant As-tu vu le dernier modèle Jaguar, XJ machin truc, turbo-diesel, injection électromagnétique qui fait grille-pain à l'intérieur? Elle est magnifique, cette voiture! Et ce verre écossais qui lui donne, et puis ce... etc., etc. Et je dis, oui, Frédéric. Non, je ne l'ai pas vu, mais elle doit être effectivement magnifique. Vous savez, il y a des moments où on se dit, bon, passons à autre chose. Mais lui, ce n'est pas possible. C'est sa passion. Alors, je taquine avec ça. Je vous taquine aussi un peu, mais ça, ça va peut-être vous faire moins rire. Est-ce que vous avez la passion du Christ? Et est-ce que ça s'entend dans vos partages au sein des repas familiaux ou autres? Ou est-ce que ça fait partie de ces fameux sujets tabous qu'on ne veut surtout pas aborder comme la politique, de peur que les choses se dégradent et qu'on finisse par une soupe à la grimace? Vous savez, c'est triste parfois quand des hommes sont collègues de travail depuis 20 ans, l'un est chrétien et l'autre ne l'est pas. Et le deuxième qui ne l'est pas, un jour se convertit et intègre l'assemblée dans laquelle son collègue est. Et là, il le pointe du doigt, mais t'es chrétien? Bah ouais. Depuis combien de temps? Bah, 33 ans. Mais je ne l'ai jamais su. Tu me l'as jamais dit. Ah bon? Non. Bah pourtant, on a mangé ensemble. Toutes les semaines, on mangeait ensemble. À la cafette, là. Oui? Tu ne me l'as jamais dit? Non. Et puis, on a été à la foire ensemble. On est même partis en vacances ensemble. Tu ne me l'as jamais dit? Non. Est-ce que tu es passionné par Christ? Ah oui! Le dimanche matin de 10h à 12h. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, le Seigneur nous invite à de la sagesse et discernement, surtout si vous avez des postes à responsabilité. On en parlait aussi avec notre sœur. La déontologie, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ou votre pasteur qui est directeur d'un établissement, on ne peut pas dire en plus ce qu'on veut dire. Mais est-ce que la passion en Christ qui est en vous, vous pousse quand même, d'une façon ou d'une autre, à exprimer votre foi. Pas forcément toujours avec un matraquage biblique, mais au travers simplement d'une affection, d'un coup de fil passé pour prendre des nouvelles de quelqu'un, alors que vous la connaissez et vous la savez affligée. Et aussi le fait que vous soyez prêt, en dehors de l'entreprise, à dire « Est-ce que tu verrais un inconvénient à ce que je prie pour toi parce que je suis chrétien ?» Comment voulez-vous que les gens soient passionnés de Christ si on ne l'est pas nous-mêmes? Comment voulez-vous qu'ils aient envie et qu'ils aient faim de cette nourriture spirituelle si nous-mêmes, on la prend avec parcimonie parce que ça ne nous fait pas plus plaisir que ça? Alors, si tu es passionné par Christ, il faut que ça se voie. Il faut que ça s'entende. Il faut que nos contemporains puissent savoir qu'il y a des chrétiens dans leur entreprise, dans leur quartier, à leur étage d'immeuble, dans la ville. On est sel et lumière. S'il n'y a pas de sel, la nourriture est insipide. S'il n'y a pas de lumière, on est dans les ténèbres. Alors mes amis, un peu de lumière, un peu de sel, soyez passionnés, parce que Jésus revient bientôt. Huitième principe pour vous ce matin, quand je vous disais que je ne reviendrai plus. Il est plus important d'être fidèle que d'avoir du succès. L'histoire que je vais vous relater là est une histoire véridique. Nous sommes en 1800, dans une église en Écosse. Et à la tête de cette église, il y a un vieux pasteur. Je regarde votre pasteur, il n'est pas vieux. C'est un vieux pasteur, il doit avoir 70 ou 75 ans. Et puis il est entouré d'un conseil d'anciens. C'est véridique ce que je vous dis là. Et le conseil d'anciens a dit à leur pasteur, « Écoutez, frère, vous êtes vieux. Et manifestement, nous avons regardé les statistiques. Au cours de l'année passée, vous avez amené au Seigneur qu'une seule personne, un jeune garçon de 9 ans. C'est fragile, c'est faible, c'est pas beaucoup. » On a estimé que manifestement, vous étiez bon pour la maison de retraite, la résidence des Bleuets, à Lorient. Je ne sais pas si elle existe. Là, vous y serez bien. Vous allez vous reposer de vos œuvres passées. Mais manifestement, on aimerait avoir un jeune plus dynamique, dans l'évangélisation, avec des résultats beaucoup plus conséquents, qu'on ait au moins 50 âmes qui se convertissent chaque année. Vous le comprenez bien, cher frère, que vous êtes maintenant un vieux truc, un vieux machin tout rabougri, et que le Seigneur n'a plus besoin de vous. On ne vous a pas blessé, surtout. Et ce vieux pasteur, effectivement, va partir. Si ce n'est que ce jeune garçon de 9 ans, qui s'est converti, va grandir, et que 20 ans plus tard, il va être à l'origine de la traduction de la Bible. Cet homme, ce jeune homme, s'appelait Robert Moffat. Et Robert Moffat, qui organisait des campagnes d'évangélisation, un jour, à l'appel, il y a un autre homme qui s'est levé, c'était le missionnaire, ou celui qui allait le devenir, David Livingstone, qui allait partir en Afrique. Tout est parti d'un jeune garçon de 9 ans, qui avait été accompagné par ce vieux pasteur que personne ne voulait. Il a été fidèle jusqu'au bout. Vous savez, mes amis, Dieu ne bénit pas le résultat, il bénit la fidélité. On est dans un monde de résultats. Quand on est commercial, il faut un chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait tant d'argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Or, malheureusement, parfois sournoisement dans notre esprit, on veut du résultat aussi dans les églises. On veut du résultat. Une église qui n'a pas de résultat est une église par définition qui est infidèle. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas de lien forcément entre les deux. Parce que Dieu bénit la fidélité. Quand vous regardez le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé toute leur vie, ou pour certains d'entre eux au moins, qui ont annoncé des choses. Mais est-ce que réellement Israël s'est converti? Est-ce que réellement les Juifs se sont retournés vers Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment eu du résultat? Très souvent, la réponse était négative. Ils ont été abandonnés, rejetés, tués, incompris. Certains, effectivement, étaient tellement découragés, comme Élie en son temps, ils se disaient, mais finalement, il n'y a pas de résultat. Comme si finalement, Dieu n'honorait que les résultats. Alors mes amis, je vous encourage à continuer à semer, même si vous ne voyez pas le résultat. Le résultat viendra en son temps, que vous le voyez ou non. Mais le résultat, que vous importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez fidèles dans ce que le Seigneur vous demande de faire. S'il vous demande de louer le Seigneur, de chanter dans la rue, même si personne ne vous croise ou ne s'arrête pour vous entendre chanter les cantiques de Dieu, c'est pas grave, continuez à chanter. Si il vous a demandé de distribuer des prospectus à la sortie de je ne sais quelle entreprise et que personne ne prend votre prospectus, c'est pas grave. Vous n'êtes pas béni par l'Éternel parce que vous avez du résultat, mais parce que vous êtes fidèle, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Vous avez parfois des femmes qui sont au foyer qui disent « Mais ils sont où mes fruits ?» Je suis entre le lavage, le repassage, le ménage, changer les couches des enfants. C'est pas très glorieux quand même. Mais qui sait si ce que vous faites, si vous le faites avec fidélité, fera en sorte à ce que, mère exemplaire que vous êtes, vos enfants qui grandiront, à un moment donné, choisiront de servir l'Éternel parce qu'ils auront vu l'Éternel en vous, dans la fidélité avec laquelle, eh bien, elle vous aura aimé. Elle vous aura écouté. Vous savez, quand vous entendez le témoignage de beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, quand vous lisez leur biographie, assez souvent, il y a une mère et une grand-mère qui ne sont jamais loin et qui sont là, qui disent « Ah oui, j'ai toujours vu ma mère prier. Oui, elle était à genoux, elle priait et ça m'a toujours ému de voir ma mère, malgré les vicissitudes de la vie, être toujours une femme de foi. Et moi, quand j'ai grandi, j'ai fait ces expériences-là. » Et pourtant, cette mère n'a peut-être rien fait d'autre que ça. Que ça. Et pourtant, ça a bouleversé la vie d'une famille. Ça a permis à son fils de pouvoir aimer le Seigneur et de se donner à lui. Alors non, il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas de petit service pour le Seigneur. Ce que le Seigneur invite, c'est que par rapport à ce que vous faites, même si ce n'est pas grand-chose, Dieu honore. Vous savez, dans une église, je le dis, il n'y a pas ceux qui ont l'honneur d'être derrière la chaire pour prêcher et qui, comme si qu'ils auraient un service pour le Seigneur beaucoup plus important que celui qui, dans la discrétion et dans le silence des murs, alors que tout le monde est parti, prend la serpillière et nettoie les sols. Parce que pour Dieu, Si vous le faites dans les deux cas, avec fidélité et avec humilité, votre récompense sera grande. Ça, je peux vous l'assurer. Neuvième principe. Le silence parle souvent mieux que les mots. On raconte qu'un philosophe grec a demandé un jour à son serviteur de lui préparer le meilleur des plats. Et le serviteur prépara un plat de langue en disant « C'est le meilleur des plats, car il nous rappelle que nous pouvons utiliser la langue pour bénir, chasser la tristesse, dissiper le désespoir et répandre la joie. » Oh oui. Et puis plus tard, le serviteur se fit de demander par son maître de préparer le pire des plats. Et de nouveau, le serviteur prépara un plat de langue en disant « C'est le pire des plats, car il nous rappelle que nous pouvons utiliser la langue pour maudire et briser des cœurs. » Salomon a écrit « La langue des sages apporte la guérison. » Et vous savez, mes amis, la sagesse, c'est de savoir parler lorsqu'il le faut et de garder le silence quand il le faut. Un homme a dit un jour « Si tu n'es pas sûr que tes paroles que tu vas prononcer ont une valeur supérieure à ton silence, tais-toi. » Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, dans cette assemblée comme ailleurs, nous devons toujours être vigilants. Et l'apôtre Jacques, avant moi, vous l'imaginez, vous le savez, l'a dit, que cette parole que vous allez prononcer soit comme du miel, de telle sorte à ce que nous puissions nous bénir les uns les autres. Ce qui ne veut pas dire pour autant ne pas nous exhorter ou nous encourager à ne pas aller forcément dans une mauvaise direction si on l'a cerné, mais que nous puissions nous faire du bien les uns les autres en nous bénissant par une parole de bénédiction, par une parole de soutien, par une parole d'encouragement. On a tellement besoin de ça, de nos jours. Parce que demain, la porte s'ouvrira à nouveau, porte de l'Église, des hommes et des femmes qui auront eu le courage de pousser la porte d'une assemblée. Qu'entendront-ils en premier? Est-ce que simplement un silence muet, par définition, il l'est? Ou est-ce que c'est une parole de bienvenue? Bienvenue. On est heureux de vous voir. Installez-vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est à votre disposition. Vous pouvez comprendre que cette parole-là, cette parole de bénédiction, est une parole qui va accrocher son cœur. Il ne pourra pas rester indifférent. Dans un monde mal poli, trouver de la politesse, de la douceur et de la gentillesse dans cette assemblée qui, j'en suis sûr, en est remplie. Et puis le dixième principe. Ne considérez pas comme des miettes la boulangerie que Dieu nous donne. J'étais content de moi quand j'ai écrit ça. Je ne sais pas s'il y a des boulangers qui sont ici, ou des pâtissiers. Je sais qu'il y a un pompier, mais ça n'a aucun rapport. Paul a dit, qu'avez-vous qui ne vous a pas été donné? Vous savez, mes amis, pour être heureux d'être français et content de notre sort, il faut aller à l'étranger, pas en Suisse, en Afrique, dans les pays de l'Est. Et c'est dans ces moments-là où tous vos murmures, toutes vos critiques par rapport à ce qui ne va pas laissent place à de la reconnaissance. Par rapport à ce que cette société vous offre au travers de la sécurité sociale, des hôpitaux. Nous partagions tout à l'heure, toujours avec ma sœur, mes expériences en Bulgarie où un Bulgare m'avait dit il y avait 20 ans de ça, surtout ne tombe pas malade dans notre pays et surtout ne va pas dans l'hôpital public. L'hôpital public est l'endroit le plus dangereux du pays. On y meurt plus vite qu'ailleurs. Et c'est vrai que on n'est jamais autant heureux quand on retrouve la sécurité. Et on comprend aussi pourquoi tous ces migrants qui viennent en masse essayent de retrouver chez nous ce qu'ils n'ont plus depuis longtemps chez eux. La paix, la liberté et l'autosuffisance alimentaire. Mais ce qui vaut pour l'entretien de notre corps l'est aussi dans le domaine spirituel. Est-ce que vous n'êtes pas comblé par ce que Christ a pu nous donner? Souvent, par rapport à des chrétiens qui parfois sont grognons, je leur dis, mais déjà, pour commencer, n'as-tu pas acquis la vie éternelle en Jésus-Christ? Oui, oh bon, la, oui, d'accord. Oui, bah oui, c'est sûr, la vie éternelle. Non mais, est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? La vie terrestre, c'est une parenthèse, hein, face à l'éternité d'avant, l'éternité d'après. On connaît le jour de notre naissance, on ne connaît pas le jour de notre décès, mais c'est une toute petite parenthèse. La vie file à une vitesse incroyable. Le Seigneur t'a offert par ton sang, Jésus-Christ, par pure grâce, cette vie éternelle. Est-ce qu'on est conscient de ça, qu'on va passer l'éternité ensemble? Ça pourrait l'air de vous réjouir plus que ça, quand même. Là, vous commencez à vous dire, avec lui aussi. Rassurez-vous, le Seigneur a dit, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qui sait si vous ne serez peut-être pas forcément au même étage? Ouf! Je vous taquine, mais... Et quand je ne vous dis que ça, mais ne vous a-t-il pas béni de toutes sortes de bénédictions? Le problème, c'est qu'on n'a plus de Dieu pour les voir. On n'a plus d'oreilles pour les entendre, mes amis. On est tellement blasé de tout. Tellement blasé de tout. Quand on veut de l'eau courante, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. En Afrique, il faut faire peut-être 2 heures de marche sous le soleil, avec un bassin sur la tête pour récupérer une eau glauque, qu'il va falloir faire bouillir, parce que sinon on va attraper toutes les maladies de la terre. Mais nous, c'est automatique. Cloc. Nous, on se dit, on prie, exaucement. Hein, vous savez, c'est la génération presse-bouton. On demande, il faut avoir. Tout de suite, immédiatement, j'exige. Comme si notre Père était notre débiteur. Alors, je crois qu'il ne faut pas être négligent. Il faut être reconnaissant. Parce que Christ nous a donné la boulangerie, et nous, on s'imagine qu'on n'a que les miettes de la bénédiction de Dieu. On n'a pas les miettes. Le Seigneur veut nous donner le meilleur de nous-mêmes, meilleur de lui-même, pardon. Et ce qu'il a préparé pour vous, bien sûr, ses plans pour vous sont des plans parfois difficiles, mais dans tous les cas de figure. Même s'il y a des vallées de l'ombre de la mort, comme je l'ai cité, et comme le psaume 23 le cite tellement mieux que moi, il ne nous abandonne pas. Et vous pouvez faire l'expérience de la présence divine de façon peut-être plus soutenue encore, parce que vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand il fait nuit qu'il faut croire en la lumière. C'est quand il fait nuit qu'il faut croire en la lumière. Alors ne négligez pas les cadeaux de Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un homme était très riche. Cette anecdote avait peut-être le fruit d'une histoire vraie. Que nous importe. Ce jeune homme donc était très riche. Et puis chaque année, à la même époque, il se posait beaucoup de questions pour offrir un cadeau pour son père. Un jour, c'était une Jaguar. Un autre Noël, c'était autre chose. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais lui offrir quelque chose d'original. Il va pousser les portes d'un magasin d'animaux. Et là, il repère un perroquet exceptionnel qui sait parler 5 langues. Le prix aussi est exceptionnel. 35 000 euros le perroquet. Mais il se dit, je veux le meilleur pour mon père. Alors, il envoie ce cadeau, ce magnifique perroquet à son père pour le 25 décembre. Et puis quelques jours après, il décroche son téléphone et dit à son père, « Et alors, qu'as-tu pensé de mon cadeau ?» Et le père de lui répondre au téléphone, « Oh, écoute mon fils, de toute ma vie, je n'ai jamais dégusté une aussi bonne fricassée. » Accroche, 35 000 euros dans la cocotte. Mais vous savez, mes amis, ce qui vous fait rire témoigne aussi d'une réalité spirituelle. Le Seigneur nous donne avec surabondance les dons selon que le Saint-Esprit veut nous donner. Il veut nous donner le meilleur. Mais qu'est-ce qu'on en fait du meilleur? Qu'est-ce qu'on en fait du meilleur? Il nous a donné cette santé. Si c'est le cas, remerciez le Seigneur. Qu'est-ce que vous en faites? Il vous a donné un travail? Eh bien, si vous en avez un, remerciez le Seigneur pour cela. Il vous a donné une famille? Remerciez-la. Remerciez le Seigneur pour cette famille. Et si vous n'avez pas de famille selon la chair, vous avez la famille aussi de Dieu qui est là. Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour la famille qu'il vous a donnée? Il vous a tant donné. Et si vous prenez une feuille blanche et que vous énumérez ce qu'il a pu vous donner, au cours simplement des années passées, vous serez surpris de se dire « Mais comment n'ai-je pas pu te remercier et te bénir pour ces petites choses ?» de toutes ces prières exaucées, des petites comme des grandes. Mais nous sommes tellement lassés de tout ça. Il y a 2 ans de ça, et je voudrais conclure maintenant, nous avons été à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est une ville donc au bord de la Méditerranée, pas loin de Montpellier, qui a une caractéristique particulière, puisque c'est un petit village fortifié, et il s'y trouve une tour que vous connaissez sûrement, tout du moins de nom, qui est la tour de Constance. Et il a été enfermé, à la révocation de l'édit de Nantes, des femmes huguenotes. Et parmi elles, une femme qui est très connue dans les milieux protestants, peut-être moins dans les milieux évangéliques, et c'est dommage, c'est Marie Durand. Est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Cette femme, à un moment donné, se donne au Seigneur. Et elle accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur dans un contexte de persécution. Et à un moment donné, elle est dénoncée, et on lui laisse le choix. Soit tu renies cette foi bizarre et tu reviens au catholicisme, soit tu es enfermé. Et elle choisit l'enfermement. C'est une jeune femme, jeune mariée. Elle va laisser son mari et elle va rentrer dans cette tour que l'on visite encore. Et elle va y rester 38 ans. Et quand elle en sortira handicapée, il faudra qu'on la porte, mais sa foi n'a pas défailli. Et dans cette tour, il y a une grande pièce circulaire. Et au milieu de cette pièce circulaire, il y a une espèce de pierre sur laquelle a été écrit, et selon l'histoire, par elle, le mot que vous connaissez, résister. C'était un encouragement pour toutes les sœurs en Christ qui étaient enfermées avec elle, mais aussi pour elle-même de se dire « je veux résister jusqu'au bout ». Est-ce que vous ne croyez pas que nos frères et sœurs en Irak, en Syrie et ailleurs n'écrivent pas dans leur cœur tous les jours « résister ». Résister. Résister à quoi? Résister au fait de baisser les bras et de se dire finalement, je préfère me convertir à l'islam plutôt que d'être égorgé. Je préfère me convertir à l'islam que de partir sur les routes ou de payer des impôts, comme on leur dit. Et est-ce que vous priez pour eux, eux qui sont des résistants? Parce que ce qu'ils vivent, eux, nous devons aussi, à notre niveau et dans le pays qui est le nôtre, résister à la tentation de la tiédeur, à la tentation du compromis, à la tentation de vouloir faire un peu notre volonté, d'être tous sur le chemin à nous, plutôt que d'être sur les chemins de Dieu. Et moi, ce matin, je veux vraiment vous encourager à aller dans ce sens, à résister, à être fidèle jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, même si votre réputation en est altérée. Même si votre liberté pourrait aussi en être amoindrie si ça va jusque-là. Est-ce qu'on est prêt à dire non quand tout le monde dit oui? Est-ce qu'on est prêt à aller dans le sens de la lumière quand tout le monde va dans les ténèbres? Est-ce qu'on est prêt à monter sur une montagne quand tout le monde glisse dans la vallée? Est-ce qu'on est encore prêt à faire ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en Bretagne, en Normandie et ailleurs? Est-ce que Jésus peut encore compter sur une génération qui se lève, une génération fidèle, une génération qui prend tous les risques par amour pour Jésus, par cette passion qui nous dévore, de se dire « lui d'abord et moi ensuite ». Sa gloire d'abord, c'est ce que je veux rechercher dans mon quotidien. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez chômeur, que vous soyez PDG, que vous soyez blanc, noir, riche ou pauvre, que nous importe? Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes les gardiens les uns des autres et nous devons non pas nous surveiller, mais nous encourager. Veillez et prions les uns pour les autres, pour nous encourager tous à terminer notre course en vainqueur. Ce n'est pas une compétition individualiste, la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une compétition. C'est à la fois certes une course individuelle, mais c'est aussi une course collective, où on a envie que notre frère et notre sœur finissent aussi avec nous, et que nous puissions ainsi passer l'éternité qui nous est promise en Jésus-Christ. Amen. Alors on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous invite à prospérer, corps, âme et esprit. Tu nous invites, cher Saint-Esprit, à aller plus loin dans la connaissance de ta parole. Aller plus loin dans ce que tu es, cher Sauveur. à aller plus loin avec toi, notre Père. Parce que tu ne veux pas simplement nous contenter de ce que nous sommes. Tu veux que nous allions en haute mer. Tu veux que nous chassions plus loin encore. Tu veux que nous jetions le filet à des endroits où nous n'avons jamais jeté le filet. Tu veux qu'on aille en eau profonde, là où personne n'a été encore jusqu'à présent. Tu veux qu'on lâche nos sécurités, nos zones de confort. Tu veux qu'on se débarrasse de nos petites barques de sécurité pour marcher sur les eaux. Mais pour cela, tu attends de nous un geste de foi, un geste d'abandon dans tes bras d'amour, un geste de confiance que nous avons perdu. Parfois, à vouloir prendre des risques, nous n'en voulons plus, parce qu'on a une réputation, parce qu'on a des biens matériels, parce qu'on a un métier, parce qu'on a des projets pour nous-mêmes. Notre Dieu, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons tâtonné dans de mauvaises directions. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons pris comme des miettes toutes les bénédictions que tu nous as données. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas assumé nos responsabilités par rapport aux missions que tu nous as confiées, tous nos dons et nos talents que nous avons enterrés délibérément parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous ne sommes pas pardonnés nous-mêmes, où nous sommes tellement enorgueillis de savoir ce qui était bien et de ce qui était mal. Mais ce matin, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons être de ces témoins fidèles de l'Évangile. Et c'est l'occasion peut-être ce matin, alors que les têtes sont baissées, peut-être que pour une personne ou pour d'autres, dans la discrétion, sans que personne ne se regarde, de lever votre main à votre place en disant « Seigneur, plus de toi dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux aller plus loin. » Oui, plusieurs mains se sont levées déjà. Merci Seigneur pour toutes ces mains. Oh, notre Dieu, je te rends grâce parce que derrière ces mains, il y a un cœur qui bat pour toi. Derrière ces mains, il y a une volonté délibérée de ces femmes et de ces hommes de se dire « Seigneur, je suis disponible. Envoie-moi. Seigneur, je te demande pardon parce que, oui, je t'ai accepté comme étant mon sauveur personnel, mais j'ai eu du mal dans tel et tel aspect de ma vie. Est-ce que tu sois Seigneur ?» Merci Seigneur pour ces mains qui se sont levées. Merci pour ces vies, qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Qu'il y ait une prise de conscience que désormais les temps sont courts et que tu reviens bientôt chercher ton Église. Une Église vivante et pas une Église endormie. Et nous voulons tous nous souvenir de ces vierges folles. Oh, elles n'étaient pas forcément mieux ou moins bien que les autres, si ce n'est qu'elles n'avaient qu'un seul défaut. C'est qu'elles n'avaient pas pris d'huile. Elles n'avaient pas entretenu leur communion, cette communion avec le Saint-Esprit. C'est ça ce que ça veut dire. Te demandons pardon toutes les fois où nous sommes endormis, alors que nous aurions dû veiller et prier. Alors nous voulons reprendre le chemin de la fidélité, le chemin de la consécration, le chemin de la sanctification.